Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
L'ordre de tir peut être transmis directement par le président vers les sous-marins et les avions.
RTL.
C'est à cet effet que l'Élysée dispose d'un PC mobile et qu'un aide de camp suit le président en permanence avec une discrète mallette.
Jusqu'à 22h.
Contrairement à la légende, ce n'est pas à l'intérieur de cette mallette que se trouve forcément le code nucléaire. D'ailleurs, en fait de code, on parle plutôt d'un objet.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le code nucléaire, c'est l'un des plus grands secrets de la République, un symbole de pouvoir, évidemment. Il y a 4 ans, tiens, en mai 2012, c'était l'objet principal du dialogue de 20 minutes entre François Hollande et Nicolas Sarkozy lors de la passation de pouvoir à l'Élysée. On vous dit tout sur le président et la bombe avec notre invité Bruno Tertrais. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On vous dit tout, forcément vous tiquez un petit peu parce que c'est un monde de secrets, le monde du code nucléaire.
Oui, mais il y a quand même des secrets. D'abord, on est en démocratie, il y a quand même des secrets qui doivent être dits parce qu'on élit notre président aussi pour ça. Et puis ensuite, il y a des secrets qui peuvent être dits parce qu'il faut que l'adversaire puisse justement être persuadé qu'on a les moyens de riposter, qu'on a les moyens. C'est ça la dissuasion nucléaire. Donc, certains secrets, parfois, ont du bon à être rendus publics.
Alors, cette passation de pouvoir, on va y revenir tout à l'heure, mais comment ça se passe? C'est un tête-à-tête ou alors il y a des conseillers qui sont présents
Alors, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, il y a un entretien entre le président sortant et le président entrant, quand il y a une alternance, bien sûr. En général, c'est totalement en tête-à-tête, donc on ne sait pas, sauf à ce qu'ils disent eux-mêmes après, ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit, ce qu'ils ont parlé. Alors, par exemple, entre Mitterrand et Chirac, ils ont parlé des canards, des canards de l'étang de l'Élysée. Non, sérieusement.
C'est une métaphore c'est...
Non, c'était pas vraiment une métaphore.
Vrai sujet de conversation.
Ils parlent parfois de sujets extrêmement légers et aussi de sujets très graves. Mais c'est pas à ce moment-là, aujourd'hui, que se fait la passation des pouvoirs nucléaires. À l'époque de Mitterrand-Giscard, par exemple, c'était quand même là, parce qu'il y avait la passation d'un petit médaillon, à l'époque, on en reparlera. Sauf que le médaillon, aujourd'hui, il n'existe plus. Mais
il y avait le code sur le médaillon.
Il y avait le code sur le médaillon.
Mais comme un médaillon de chaîne.
Exactement. Une... Voilà, comme je suis sûr que voilà, quelqu'un
en face de moi porte communion, un petit par exemple.
Médaillon.
Dans pas lequel le code nucléaire, Coralie Montigny.
Mais le moment...
Si elle
fait oui avec la tête.
Je sais pas, moi j'en sais rien.
Si vous nous suivez sur RTL.fr, donc,
c'est pour ça que vous êtes là.
Coralie Lutinier, notre productrice du soir, a son code nucléaire sur elle.
Alors, le moment le plus solennel, en fait, c'est le moment où on invite le président de la République à descendre dans le bunker pour ce qu'on appelle la présentation de la posture des forces nucléaires. On lui dit, monsieur le président, alors là, il y a un conseiller militaire de très haut rang qui va lui dire, voilà ce que vous avez, maintenant vos forces nucléaires, elles sont là, voilà ce qu'elles peuvent faire. Et il paraît que ça fait un effet magistral, en tout cas ça leur tombe sur les épaules cette responsabilité dès le premier jour.
Bruno Tertrais, vous publiez Le Président et la Bombe, livre coécrit avec Jean Guinel et publié chez Odile Jacob. Vous y racontez ces passations de pouvoir et vous dites que la première passation normale n'a eu lieu qu'en 1981. Pourquoi?
Eh bien parce qu'il y a eu les intérims avant. Autrement dit, après, quand le général de Gaulle démissionne, eh bien...
Ça, c'est en 69.
En 69, ouais. Eh bien c'est Alain Poher, président du Sénat, qui, selon la Constitution, devient président de la République par intérim. Mais l'intérimaire, il a les mêmes pouvoirs que le président Fonclon. C'est-à-dire qu'on va lui donner le code nucléaire. Pendant quelques jours, Alain Poher, président du Sénat, a eu les codes nucléaires en main. Et puis, rebelote, si j'ose dire, après la mort de Georges Pompidou.
En 74,
à ce moment-là, il y a aussi l'intérim de Poher. Alors, la première passation, ça s'est très mal passé. Poher demande, alors le code, il est où? Et puis le ministre de la Défense, et aussi Premier ministre, Pierre Messmer, dit, non, je vous le donne pas. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais en tout cas, visiblement, pendant 3 jours, Poher a dû demander le code.
C'est mine qu'il a égaré, c'est ça?
Il voulait pas, parce que on considérait que c'était une sorte d'usurpateur. Il s'était opposé à De Gaulle, et franchement, il ne méritait pas d'avoir le
alors
code.
Alors que la Constitution de la Ve République prévoit effectivement que le président du Sénat, c'est ça, devienne le premier personnage de l'État en cas de vacance du pouvoir. Donc ça se renouvelle en 74. Sauf que là, surprise, dans le médaillon qui est censé contenir le code nucléaire, il y a quoi?
Alors, il semble que ce qui se soit passé à ce moment-là, c'est que Pierre Messmer, toujours lui, est allé récupérer le fameux médaillon sur le corps du président Pompidou. En tout cas, c'est une des versions de l'histoire qui circule. Il y en a une autre qui dit que le code était dans un coffre dont on n'avait pas la clé. En tout cas, visiblement, on n'était pas encore très rodé à l'époque sur ces passations de pouvoir. Et donc, Alain Poher récupère le médaillon et puis un jour, il y a un exercice, parce que parfois, il faut tester les procédures. Et, dit-il, il ouvre le médaillon et là, rien.
Il n'y a rien dedans.
Il n'y a rien dedans. Alors, ça peut paraître un peu amateur, tout ça.
Oui, quand même.
Ça peut paraître un peu curieux, je comprends. Mais en fait, derrière, il y a tout un tas de procédures qui puissent assurer que seul le président peut donner l'ordre ou son successeur légitime. Et l'histoire du code, c'est un petit peu de la symbolique quand même.
Mais alors, ce code nucléaire, est-ce qu'il est toujours dans ce médaillon aujourd'hui?
Non, je ne crois pas. En tout cas, on ne parle plus de médaillon après Mitterrand. Hein, donc, je ne sais pas s'il existe encore, mais ça m'étonnerait. On parle d'un objet. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est parce qu'on n'a pas voulu me le dire.
Une montre comme de Gaulle, qui collait le code nucléaire sous son
montre.
Ah oui,
on nous avait, c'est un de nos invités qui nous avait raconté ça.
Non. De Gaulle mettait dans un médaillon avec une chaînette en or le code sur un petit bout de carton d'un côté, et de l'autre côté, il y avait la photo de sa fille Anne, une enfant trisomique pour laquelle il avait beaucoup d'affection, qui était récemment disparue. Donc il y a cette espèce de médaillon sur lequel il y a tout ce qu'il y a de plus cher au monde pour lui. C'est assez curieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, a priori, il n'y a plus de médaillon. On nous dit qu'il y a un objet qui représente un peu cette autorité présidentielle, mais on n'a pas pu aller plus loin. On ne sait pas exactement
ce que c'est. Mais c'est toujours le même code nucléaire depuis des décennies?
Non, ça change. Hein, c'est un peu comme le code de votre immeuble.
Oui, quand ça change de locataire ou de propriétaire, ça change.
Bah écoutez, en tout cas, le président, il peut changer le code. On le change aussi par sécurité. C'est pas juste un code PIN à 4 chiffres comme votre carte bleue.
000.
C'est pas 007. D'ailleurs, j'en sais rien, mais a priori, tout indique que ce soit un code un peu plus complexe et que surtout, c'est peut-être le plus important. Il y a des manières de savoir, d'être sûr que c'est bien le président qui est là, qui parle, qui donne l'ordre. Il y a la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, on n'avait plus autant du général de Gaulle. Il y a des caméras, le président est filmé, il y a la reconnaissance visuelle, peut-être la signature, mais il y a tout un tas de choses qui font qu'on veut bien être sûr que ce n'est pas parce qu'il y a un code que c'est bien le président qui parle. Et donc ces vérifications sont redondantes. On ne s'assure pas simplement que le président est bien là, non, on veut être sûr que ce soit lui et bien lui qui donne l'ordre.
Donc ça veut dire que le président ne peut pas seul déclencher le tir nucléaire?
Si.
Ah oui?
Il le peut seul et il est le seul à pouvoir le faire. Simplement, la chaîne qui est en dessous, qui va transmettre son ordre, l'ordre il va aller directement aux sous-marins et aux avions, mais avant, on va faire une vérification. Et là, c'est la chaîne militaire qui vérifie que c'est un, le président qui parle ou qui écrit, je ne sais pas. Deux, que les ordres qu'il donne sont des ordres précis et que c'est bien ces ordres-là qu'on va exécuter. Hein, et s'il a dit « je veux aller vitrifier l'Italie, il ne faut pas qu'on aille vitrifier l'Espagne hein, » ou vice-versa. En tout cas, que ce sont bien les ordres précis du président qui vont
mais
être exécutés.
Même si ce sont des ordres farfelus?
Ah, écoutez, il y a assez peu de chances.
Au regard de la géopolitique, mais imaginez folie.
C'est une bonne question. Le système a prévu ça, effectivement. Le coup de folie est prévu. Le président peut décider seul, mais la chaîne va vérifier que tout est bien conforme aux procédures. Et si demain le président de la République, celui-là ou le précédent ou le suivant, se réveille en disant je veux aller vitrifier Rome par exemple, je ne pense pas que la chaîne puisse aller exécuter cet ordre.
Vous nous voyez rassurés quand même.
Bah oui, effectivement, et nos auditeurs italiens aussi. Alors on va continuer de raconter comme si on était en quelque sorte une petite souris dans le bureau du président à l'Élysée. Comment se passent ces passages de pouvoir et ces discussions autour de la force nucléaire. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL. 20h-22h. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est l'un des attributs du pouvoir en France. Le président de la République est dépositaire du code nucléaire. Comment ce code est-il protégé? Comment se transmet-il d'un président à l'autre? C'est ce que l'on découvre avec notre invité, le politologue Bruno Tertrais. On va raconter maintenant les passations de pouvoir et notamment la première à se dérouler entre deux présidents élus et vivants. On est en mai 1981. Que fait François Mitterrand quand il reçoit le médaillon des mains de Valéry Giscard d'Estaing?
Alors, il raconte qu'il le prend, qu'il le met dans la poche. Et après, il y a deux histoires différentes que Mitterrand lui-même a racontées. Peut-être qu'il a un petit peu exagéré, je ne sais pas. Mais première histoire, il raconte à des amis ensuite qu'il essaye de l'ouvrir et puis il n'arrive pas à l'ouvrir. Donc il demande à un huissier, il demande à quelqu'un, un tournevis s'il vous plaît.
Non mais littéralement, imitation.
Non, mais littéralement il raconte comme ça, je ne sais pas si c'est passé comme ça. Et puis personne n'arrive, il le fait avec les dents, enfin bref, personne ne peut ouvrir le médaillon. Deuxième histoire, et celle-là qui
est... C'est VGE qui a mis de la glu?
qui voulait pas lui rendre
c'est la grande vadouille en fait à l'Élysée.
Ça sonne un peu VGE effectivement. Ouais. Deuxième histoire, alors là qui a été attestée par plusieurs témoins. Mitterrand est quand même très ému toute la journée, puis la journée est fatigante. Il met le médaillon dans sa poche et puis le veston part au pressing, part chez le teinturier. Et une heure plus tard, il se dit. Flûte, nom de Zeus, si j'ose dire.
Ah bah oui, c'est Jupiter. Le cas de le dire.
Qu'est-ce que j'ai fait de ce fichu? Il envoie deux gendarmes se dépêcher de retrouver le pressing et de récupérer le médaillon. Alors là encore, je voudrais vous rassurer comme tout à l'heure, si jamais le médaillon avait été perdu, les procédures auraient fait en sorte que, voilà, on n'aurait pas pu, le teinturier n'aurait pas pu déclencher le feu nucléaire. Hein. Alors, c'est intéressant cette histoire parce que ça montre un espèce de détachement de Mitterrand qui pourtant prenait ces choses extrêmement au sérieux. Que j'ai un petit peu du mal à comprendre. C'est peut-être parce que justement cette responsabilité est aussi lourde qu'il y a ces anecdotes autour dont on ne sait pas vraiment si elles sont vraies à 100%. Enfin, celle du teinturier, en tout cas, elle a vraiment été racontée par plusieurs personnes autour de Mitterrand.
Alors il y a le passage de témoin, entre guillemets, de l'objet, du médaillon en l'occurrence, et puis il y a la procédure à suivre aussi. Qui c'est qui l'explique ça au nouveau président?
Alors ça, en général, c'est ce qu'on appelle le chef d'état-major particulier du président de la République, son principal conseiller militaire. C'est un général ou un amiral, donc 5 étoiles, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Et c'est le chef d'état-major particulier qui lui a en main toutes les procédures.
Lui, il n'a pas paumé le mode d'emploi.
Non,
tout va bien.
Non, et ça, il n'y a pas de risque. C'est en général des gens encore plus sérieux que les responsables politiques. Et c'est lui qui va expliquer toutes ces procédures qui sont à la fois, nous dit-on, très simples, très complexes et très simples à la fois.
Bruno Tertrais, vous le racontez dans ce livre Le président et la bombe, publié chez Odile Jacob. Ça se passe dans le poste de commandement Jupiter, le PC Jupiter, qui est dans les sous-sols en quelque sorte de l'Élysée. Il ressemble à quoi, ce poste de commandement?
C'est pas très grand, c'est un petit peu plus grand que vos studios, mais c'est pas gigantesque.
Alors, vous l'avez visité?
Je l'ai pas visité, mais dans une vie antérieure, j'ai eu des fonctions qui font que j'ai pu voir comment il était. En tout cas, avant sa rénovation, puisqu'il a été rénové très récemment, on en voyait des images dans un documentaire récent. C'est pas très impressionnant, c'est un lieu très simple où tout est fait pour qu'on soit dans la sérénité, comme me disait un ancien conseiller présidentiel, puisque c'est là que se prendraient éventuellement ces décisions terribles. Donc il y a quelques consoles, il y a un petit peu d'électronique, mais c'est pas très impressionnant visuellement. Avant, c'était un petit peu, ça faisait un peu années 70, et pardonnez-moi, mais ça ressemblait un peu à une bande dessinée genre Black et Morty. Vous voyez, c'était la technologie des années 60-70. Ouais. Il y avait des boutons partout, des drôles de consoles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple.
Mais alors, je ne sais pas combien fait notre studio. Il doit faire quoi,
20 mètres carrés?
Oui, c'est
alors,
ça.
Il y a une salle de réunion.
Est-ce que ça a toujours été aussi petit? Parce que
oui,
c'est pas grand.
C'est petit. Et une des personnes qui ont porté la mallette nous disait, bon, c'est une espèce de cage à poule microscopique. Il exagère un peu, mais en fait, il y a une grande salle de réunion. Il y a un bureau, naturellement, pour le président. Il y a d'autres salles auxquelles, franchement, là, pour le coup, personne n'a accès. Mais c'est pas un lieu, c'est pas un film de science-fiction américain.
C'était même encore plus petit quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé à l'Élysée.
Non, à l'époque, c'est un ancien abri anti-aérien.
D'accord.
Qui a été construit dans les années 1940. C'est sous une aile de l'Élysée, sous les appartements privés. Donc c'est vrai que c'est pas fait pour pouvoir vivre à 15 pendant 3 mois de an. Hein. Et il y a Jacques Chirac d'ailleurs qui était un peu obsédé par ce PC Jupiter.
Oui.
La première chose, dit-on, que Chirac a voulu faire quand il est investi président de la République, c'est qu'il veut absolument voir le PC Jupiter. Il arrive et puis il est très déçu. Il est très déçu, nous dit là encore un ancien conseiller militaire, parce qu'il s'attendait à un endroit absolument ultra moderne, très impressionnant, et ça n'avait quand même pas la solennité à laquelle il s'attendait.
Les lieux et les armes nucléaires font appel à la mythologie. Jupiter, le dieu de la foudre, vous nous en avez parlé, mais aussi les Champs-Élysées, que symbolise-t-il dans la mythologie?
C'est une sorte de hasard, mais c'est vrai que les Champs-Élysées, dans la mythologie grecque, c'est l'enfer. Le PC Jupiter qui est à côté, c'est le plus grand des dieux romains, celui qui déclenche la foudre. Toute cette mythologie à la fois grecque, romaine, mais aussi une mythologie issue du christianisme qu'on retrouve beaucoup beaucoup dans les débats nucléaires pour vous montrer la solennité des choses. On parle du sacre du président. Un ancien conseiller de Sarkozy nous disait « Moi, j'ai vu la transfiguration de Nicolas Sarkozy au moment où il reçoit cette responsabilité nucléaire. » Et le même nous disait aussi « En France, maintenant, on n'a plus le sacre de Reims, l'ampoule de Saint-Rémy et tout ça, mais on a la passation des pouvoirs nucléaires. » C'est assez étonnant de voir tout ce vocabulaire imprégner le discours.
Mais Bruno Tertrais, en même temps, vous nous avez décrit des présidents un peu désinvoltes parfois avec cette arme nucléaire. Pourtant, c'est la marque, c'est un symbole de pouvoir.
Oui, mais
la bombe.
C'est comme le plus fort pouvoir du président de la République.
Oui, exactement. C'est ça qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est que même un président qui n'a plus que 11% de popularité, il a encore ce pouvoir de rayer de la carte la moitié de la planète. Ce contraste est assez impressionnant. Alors la désinvolture, je me suis toujours dit que c'était peut-être pour Mitterrand, parce qu'on parlait de Mitterrand, une manière d'alléger un peu la pression qui est énorme, qui arrive sur un président comme ça, et qui est élu et par le peuple français et qui a en son nom le pouvoir de déclencher l'apocalypse nucléaire.
Alors on fantasme souvent sur la mallette qui accompagne le président. Dans cette mallette, il y aurait justement le code ou de quoi transmettre le code. Bon, on va savoir qui s'en occupe et puis peut-être ce qu'il y a dedans. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
C'est bon.
RTL.
Monsieur le Président, c'est quand vous voulez. Phase de reconnaissance correcte. Vous pouvez commencer la simulation nucléaire.
Allez, on y va.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour à tous.
Attention à Kangoo. Ouais, Léna.
Jusqu'à 22h.
Putain, encore perdu.
Sidonie Bonnec, Thomas
Hugues. Quand les guignols se moquaient de Jacques Chirac et du code
nucléaire.
C'est
pas un sketch, Thomas?
Si, on le saurait, heureusement. Enfin, en même temps, Jacques Chirac, c'est le dernier à avoir fait des essais nucléaires physiques en Polynésie française. Donc, il y avait des raisons aussi de l'associer au nucléaire, évidemment, dans les guignols. On répond à toutes ces questions autour du code nucléaire qu'il possède. Comment se transmet-il? Pourquoi est-ce ce symbole essentiel du pouvoir présidentiel? Et c'est le politologue Bruno Tertrais qui nous éclaire. Le code, est-ce qu'il est en un seul morceau? Ou est-ce qu'il y a le président d'un côté et, je ne sais pas, le chef d'état-major des armées ou je ne sais qui en possède une autre partie?
Alors, nous ne savons pas tout, et c'est normal, mais en gros, il y a probablement un code militaire ou plutôt quelque chose qui permet à l'autorité militaire de dire « oui, c'est bien le président de la République » qui m'a donné l'ordre. Là, on veut s'assurer, c'est pas que les militaires contrôlent le politique, hein, non, là, encore une fois, c'est vraiment le président tout seul qui peut faire absolument ce qu'il veut dans ce domaine. Mais il va falloir quand même vérifier que c'est bien le président, et donc il y a probablement des codes militaires dans la chaîne qui sont entrés pour montrer que c'est bien le président qui engage les forces.
On fantasme beaucoup sur cette fameuse mallette qui accompagne le président sur la pause. Là, je disais peut-être qu'il y a des balistos dedans, on sait jamais, ou des Twix, enfin des barres de chocolat, en plus du code militaire. Mais c'est pas si drôle que ça, parce qu'il y a autre chose que le code.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la fameuse mallette qui fait fantasmer tout le monde, effectivement.
D'ailleurs, elle est en photo.
Bien sûr, parce que vous pouvez la voir.
En couverture de votre livre.
Donc il y a de la place.
Quand vous voyez François Hollande.
Elle est ventrue, la mallette. Hein.
Oui, il paraît qu'elle est très lourde en plus. Mais quand vous voyez François Hollande en déplacement en province ou à l'étranger, vous voyez un aide de camp en tenue, en uniforme, qui porte la mallette. Bah, c'est bien ça. Mais la fameuse mallette, il faut la dédramatiser un peu. C'est pas là-dedans que tout se passe.
Il y a quoi dedans?
Je vais vous dire.
On l'ouvre et on regarde.
Suspense, vous l'ouvrez. Alors, il y a une bouteille d'eau, il y a un discours. Non, littéralement, c'est ce que nous dit un ancien aide de camp. Vous savez, dans la mallette, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est le kit de survie de l'aide de camp. Il peut y avoir le fameux objet, le sceptre présidentiel qui symbolise ce pouvoir nucléaire, peut-être qui permet de dire que c'est vraiment le président, mais il ne semble pas qu'il y ait ces fameux moyens de transmission.
Mais oui, moi je pensais que qu'il y avait un ordinateur ou je ne sais quoi.
De déclencher la bombe.
Ça c'est la mallette russe. L'ordre, quoi.
Ça c'est la mallette russe. Dans la mallette russe, il y a effectivement les moyens de transmission. Il semble que en France, ça se passe différemment. Mais en tout cas, l'aide de camp, il a ce rôle clé de faire la liaison entre le président et les forces nucléaires au cas où il soit à l'autre bout du monde ou même en province.
Cette aide de camp qui va le suivre tout le temps sur n'importe quel déplacement.
N'importe quel déplacement. Et vous pouvez le voir à la télévision. On le voit. D'ailleurs, il y a aussi la même procédure aux États-Unis. Et quand vous regardez l'inauguration d'un président américain, vous voyez littéralement le type qui porte la mallette qui, au moment où le président a prêté serment, il va changer de place et il passe de l'ancien président au nouveau président. Ça, regardez-le à, la,
à l'instant T.
À l'instant T. Regardez-le le 20 janvier prochain, lorsque nous espérons une femme sera élue présidente, parce que Trump en possession des codes nucléaires américains, a priori, ça donne pas tellement envie.
Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Alors, on peut pas parler de dissuasion nucléaire dans cette émission, dans la curiosité sur RTL, sans parler longuement du général de Gaulle. Pourquoi c'est le principal artisan de la bombe en France?
Parce que c'est lui qui va dire... Le programme nucléaire, il commence sous la 4e République. Hein. Il faut rendre justice aux hommes et aux femmes. Enfin, il y avait surtout des hommes à l'époque, hein, de la 4e République. Ce sont eux qui engagent le programme nucléaire militaire français. Simplement, De Gaulle, il va faire deux choses. Il dit, un, je veux une vraie force nucléaire, pas juste la capacité d'envoyer une ou deux bombes. Je veux des sous-marins, des bombardiers, des missiles. Je veux tout. Deux, et c'est le plus important, il dit, ça va être l'arme de l'indépendance française vis-à-vis des États-Unis. C'est alors que là, sous la 4e, on disait on fera ça en alliance avec les États-Unis. Alors que pour De Gaulle, et ça reste le vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est une manière de dire aux États-Unis, nous ne dépendons pas de vous pour notre survie, et donc on peut avoir une diplomatie indépendante. Une des hypothèses que Jean Guinel et moi-même émettons dans le livre, c'est de dire que la France, ça aurait peut-être pas été aussi facile pour elle de dire non aux États-Unis au propos de la guerre en Irak en 2002-2003, et de s'opposer activement à l'Amérique à cette époque-là, si elle n'était pas totalement indépendante pour sa survie. C'est d'abord une arme politique et une arme de la liberté d'action vis-à-vis de nos alliés, et en premier lieu de l'Amérique.
Et donc c'est sous le mandat du président de Gaulle que les premiers essais auront lieu, c'est ça? C'est en 1960?
Oui, alors que l'ordre de procéder à un essai, il a été antidaté par Félix Gaillard, par le dernier président du Conseil de la 4e République. Autrement dit, au moment où de Gaulle arrive au pouvoir, tout est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer
sur
le bouton.
Et alors, il y a une anecdote que vous racontez dans votre livre, coécrit avec Jean Guinel, Le président et la bombe, chez Odile Jacob. On est en avril 61, c'est lié à la guerre d'Algérie, on en parlait ici même jeudi, de la guerre d'Algérie. Que se passe-t-il lors du putsch des généraux?
Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, c'est une coïncidence, mais la France se prépare à faire son 4e essai nucléaire en Algérie, dans le Sahara, tout au sud de l'Algérie. Et là, le putsch des généraux à Alger a lieu au moment où cet engin nucléaire est en Algérie. Et là, les généraux putschistes savent qu'un essai doit avoir lieu, et donc ils appellent le centre de commandement et littéralement ils demandent à ce qu'on ne procède pas à l'essai, en disant et ils disent, un des généraux, je crois que c'est Charles, qui dit à celui qui dirige le centre, dis donc ta petite bombe, il le dit comme ça parce qu'il se connaissait, évite de la faire exploser, ça pourra toujours nous servir. Et donc là il y a vraiment une menace extraordinairement symbolique pour De Gaulle, parce que c'est l'Algérie et c'est la bombe, et c'est vraiment tous les symboles de cette année-là. Et De Gaulle, lui, est assez optimiste. Il dit à ses ministres, ça durera pas 3 jours. Alors, il va demander à ce qu'on procède tout de suite à l'essai nucléaire. Faites exploser la bombe tout de suite. Non pas parce qu'on a peur que... En tout cas, c'est notre thèse. Oui. Non pas parce qu'on a peur que les putschistes s'en emparent, hein, mais surtout parce qu'il veut montrer qui est le patron. Il veut dire, c'est moi qui reste le patron, c'est moi qui décide ce qui se passe en Algérie. J'ai encore la maîtrise du feu nucléaire.
Merci beaucoup, Bruno Tertrais. Votre livre, donc, Le Président et la bombe, coécrit avec Jean Guinel, et publié chez... Odile Jacob.
Vous écoutez RTL.